Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 5 mars 2020 de 18h30 en temps universel. En direct de Washington, Eric Manelakiza, les titres de cette édition. Le président ivoirien Alassane Ouattara ne sera pas candidat à sa propre succession lors de la présidentielle d'octobre 2020. Un premier cas de coronavirus confirmé en Afrique du Sud. Le Maroc restreint les rassemblements culturels et sportifs pour prévenir la propagation du coronavirus. Les touristes sont interdits en Cisjordanie. Fermeture de la basilique de Bethléem à cause du virus. La CPI autorise en appel l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre en Afghanistan. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui entretenait depuis des mois le mystère sur son éventuelle candidature à un troisième mandat, a levé l'équivoque. Il a annoncé aujourd'hui à Yamoussoukro qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle en octobre 2020. Suivez.
Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du cadre. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui, une jeune génération en qui nous devons faire confiance.
À Boaké, l'homme de la rue n'est pas du tout unanime sur cette décision du président Ouattara. Suivez quelques réactions recueillies par Aïcha Diarra.
S'il décide de ne pas se présenter pour un troisième mandat, je suppose que ce monsieur veut la paix. Donc, que gloire soit rendue à l'Éternel, tout ce que Dieu fait est bon. Que la volonté de Dieu se fasse, c'est tout.
Il suffit qu'il nous montre quelqu'un qui veut faire comme lui, il n'y a pas de problème. C'est son idéologie, nous on cherche quoi. Voilà, vraiment de gérer le pays, ça nous plaît beaucoup. Donc s'il peut trouver quelqu'un aussi qui peut faire même chose que lui, il n'y a pas de problème.
On veut qu'il n'ait qu'à être présent. Ouais, son nom choix, c'est ça. Oui. Seul mot qu'il peut dire, c'est ça.
Bon, pour sa candidature là, vraiment, nous on ne voit pas qui d'autre peut être candidat si Alassane n'est pas là. Parce qu'on ne voit pas qui peut arranger la Côte d'Ivoire à part Alassane. Donc vraiment, moi s'il n'est pas candidat, vraiment ça nous arrange pas. C'est ce que moi je peux dire.
Au moins il a tenu à sa parole. C'est bien. C'est un homme de parole.
Bon, concernant la non-candidature d'Alassane, c'est bien. Tout en souhaitant que la nouvelle génération réussisse ce que le président Alassane a laissé en cours.
À moi ça me plaît pas. Parce que moi c'est lui, moi je veux comme candidat. Parce que c'est lui à qui moi j'ai confiance pour diriger le pays. Donc je veux qu'il se représente. Et nous sommes là, nous sommes derrière lui. On l'encourage pour mettre sa candidature. Parce que nous sommes prêts à le voter.
Qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, que Alassane soit candidat. Nous, on veut la candidature d'Alassane pour assurer la sécurité des Ivoiriens.
Alors, vraiment, moi, il est fusillé beaucoup, quoi. Vraiment, c'est un homme démocrate, quoi. Quand il dit son parole, vraiment, il suit son parole. T'as vu, non? Le moment qu'il vient, il dit qu'il a fait deux mandats. Maintenant, il a donné ce. Il dit qu'il ne veut pas faire un autre mandat encore. Vraiment, il le félicite. Vraiment, le travail qu'il a fait, celui qui va venir, sa place, la carte. Faire le bon travail comme lui aussi.
Pourquoi? Oh non, on ne comprend pas. Et puis bon, ce qu'il a commencé là, qui va terminer? Et puis il y a qui va venir s'asseoir? Ah vraiment, il nous a mis dans le problème. Hein. Si c'était ça même là, il ne fallait pas qu'il va venir. Bah, là, où là, on est en paix. Il nous a ramené la paix. C'est le seul individu hein, à qui on a commis beaucoup d'atrocités. Pour qui les gens voudraient se venger. Et il a dit à ces gens-là, pas de vengeance.
Je veux qu'Alassane soit présent. Parce que s'il est présent, depuis là, si on est bien. Ça va chez nous. Le travail que j'ai fait aussi, ça va. Le travail que lui-même fait aussi, je suis content. S'il n'est pas candidat, là, c'est pas la peine. Je ne supporte plus quelqu'un. Ça s'arrête là.
Qui devra donc prendre le flambeau de la mouvance présidentielle? Ekiabadou a joint à Abidjan Alexis Tano, secrétaire général du quotidien ivoirien Le Jour Plus.
C'est difficile de le dire, mais il y a un nom qui revient régulièrement qui est M. Amadou Gon, le premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est vrai, au sein du rassemblement des Fautistes pour la paix, pour la démocratie et la paix, il revient aussi que M. Amadou Gon ne fait pas tellement l'unanimité qu'il y aurait eu des sons discordants, des gens qui disent que M. Gon n'est pas populaire et autres. Mais en réalité, il y a une chose qui est constante, que M. Gon était la faveur du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. M. Ouattara a décidé de ne pas être candidat, mais l'autre défi qui se pose dans l'immédiat, c'est de réussir à fédérer toutes les énergies au sein du rassemblement des opposants de RHDP autour de la candidature de M. Ouattara. Pour le moment, ce n'est pas une chose qui est faite, ce n'est pas facile d'ailleurs, mais nous attendons qu'avec cette déclaration qui va décrisper non seulement au niveau de l'assemblement des groupes politiques, la situation, mais aussi sur la scène politique ivoirienne.
Cette décision peut-elle amener d'autres partis ayant également des leaders plus vieillissants à céder
Vous croyez bien le dit. Actuellement, les regards sont tournés vers le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire d'ailleurs, le président Henri Konan Bédé, qui n'a pas ouvertement annoncé sa candidature, mais dans son parti, il y a des voix qui sont élevées pour le proposer. Et il est d'autant plus attendu que M. Ouattara était allié à M. Médié. M. Médié qui a dit qu'il revenait pour prendre le pouvoir, non pas pour faire la revanche, mais pour prendre la revanche sur son passage entre 1993 et 1999. Donc tout ça, il faut que M. Henri Konan Bédié précise sa position. Le retrait de cet énorme pourra assurer, garantir des élections transparentes et libres, apaisées, ce n'est pas du tout évident. Mais déjà, ça contribue à décrypter la situation, l'atmosphère politique aujourd'hui.
Alexis Tano, du quotidien ivoirien, Le Jour Plus. La Guinée voisine est secouée par des violences autour de la volonté prêtée au président Alpha Condé d'obliger un troisième mandat à la fin de l'année. La France a pris note du résultat de l'élection présidentielle au Togo, emporté par le président sortant Faure Gnassingbé, mais contesté par son principal adversaire. Et d'après la justice burkinabé, le premier ministre français Édouard Philippe a signé un décret d'extradition de François Compaoré, frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré, inculpé pour incitation à assassinat dans l'affaire du journaliste Norbert Zongo, tué le 13 décembre 1998. François Compaoré avait été interpellé le 29 octobre 2017 à Paris suite au mandat d'arrêt international lancé par Ouagadougou avant d'être placé sous contrôle judiciaire. La France et ses partenaires sahéliens constatent une amélioration dans la zone dite de Détroit frontière, à l'exception notable du côté burkinabé, a estimé un conseiller de l'Élysée. Au Nigeria, 5 policiers ont été tués hier soir dans une attaque du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, contre une ville du nord-est du Nigeria. L'épidémie du nouveau coronavirus continue de se propager dans le monde avec de nouvelles victimes. Malgré de nouvelles restrictions annoncées par plusieurs pays, l'inquiétude grandit, n'est-ce pas, Claire Morin-Gibourg?
L'Afrique du Sud a annoncé aujourd'hui un premier cas de coronavirus, un homme ayant récemment séjourné en Italie. Avec 4 nouveaux cas au Sénégal, le président Macky Sall a ordonné à ses ministres de ne pas quitter le territoire et il a confirmé l'octroi immédiat de 1,44 milliard de francs CFA au plan de riposte. 2 nouveaux décès ont été enregistrés en France et 92 nouveaux cas recensés. En Iran, le bilan serait de 107 morts selon les autorités, mais l'agence officielle IRNA évoque au moins 126 morts. L'Iran a fermé écoles et universités pour un mois, tout comme l'Italie, où 8,5 millions d'élèves et d'étudiants sont privés de cours pour 10 jours. En Grèce, 21 nouveaux cas ont été détectés au sein d'un même autocar qui a voyagé en Israël. Alors que les autorités israéliennes ont interdit hier l'accès du territoire aux ressortissants de plusieurs pays européens, Lufthansa a suspendu tous ses vols vers Israël. Avec les nombreuses annulations d'événements internationaux et les liaisons aériennes suspendues, l'épidémie de Covid-19 pourrait coûter plus de 100 milliards de dollars au transport aérien. Le tourisme est aussi affecté par l'absence de visiteurs venant de Chine, Taïwan et de la Corée du Sud, le second pays le plus touché après la Chine continentale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Présidentielle américaine, la sénatrice Elizabeth Warren a décidé d'abandonner la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. Pour l'instant, elle a refusé de soutenir un autre candidat. La Cour pénale internationale a autorisé aujourd'hui en appel l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et contre l'humanité en Afghanistan depuis la période du 1er mai 2003. La procureure de la Cour, Fatou Bensouda, souhaite examiner des exactions qui auraient été commises dans le pays par des combattants talibans, les unités afghanes pro-gouvernementales et par les forces internationales, notamment les troupes américaines. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. L'actualité économique signée Eki Abadou.
Les compagnies aériennes mondiales pourraient enregistrer cette année jusqu'à 113 milliards de dollars de pertes en raison de l'épidémie de coronavirus, a estimé ce jeudi l'Association internationale du transport aérien. Cette estimation ne prend pas en compte les pertes du transport de fret. La 8e édition de l'Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain prévu à Abidjan les 9 et 10 mars 2020, est reportée à une date ultérieure en raison du coronavirus, a annoncé Amir Ben Yamed, président de ce forum économique. Côte d'Ivoire toujours, le pays ne figure pas encore parmi les grands producteurs d'or du continent, mais affiche de solides ambitions en la matière avec des résultats prometteurs ces dernières années. La production aurifère d'environ 30 tonnes en 2019 est 4 fois plus qu'il y a 10 ans et attire de nouveaux opérateurs. La production est passée de 7 tonnes en 2009 à 24,5 tonnes en 2018, un record légèrement revu à la baisse par rapport aux objectifs que s'était fixé le gouvernement, qui avait tablé sur une production de 26 tonnes. Et ce à cause de grèves à répétition sur le site de Tongon, dans le nord, exploité par le géant canadien Barrick Gold. Le port autonome de Kribi au Cameroun fait de la prospection commerciale en Centrafrique. Une délégation du port autonome de Kribi dans le sud du Cameroun s'est rendue récemment à Bangui pour rencontrer le Conseil centrafricain des chargeurs.
Et nous passons directement à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
L'ancien président de la Fédération ghanéenne de football, inculpé d'escroquerie, de quoi s'agit-il Yacouba?
Oui, Kwesi Nyantaki a été mis en cause par une enquête journalistique dans un documentaire d'investigation sorti en juin 2018. Une équipe sous l'égide du célèbre journaliste Anas Arimayai Anas a piégé en caméra cachée des dizaines d'arbitres ghanéens et du continent et plusieurs dirigeants de la Fédération ghanéenne dont son président en leur promettant des pots de vin. Kwesi Nyantaki s'est vu invité dans un pays du Moyen-Orient pour négocier avec un riche investisseur qui lui propose de sponsoriser le football ghanéen. Après lui avoir offert 65 000 dollars, le contrat s'élèvera à 15 millions de dollars, lui promet le faux homme d'affaires, lui réservant une part personnelle de 4,5 millions de dollars.
Litige Tepe Mazembe Ben Malango, Raja de Casablanca. La FIFA a tranché, n'est-ce pas?
Oui, la FIFA a ordonné à Ben Malango et à son club, le Raja Casablanca, de verser une indemnité compensatrice de plus de 296 000 dollars au tout-puissant Mazembe, l'ancien club du joueur congolais. Le club de Lubumbashi contestait le transfert de Ben Malango au Raja à l'été 2019, estimant que le joueur était toujours sous contrat avec les Corbeaux. Le tout-puissant Mazembe réclamait 5 millions de dollars, une suspension de 6 mois du joueur et une interdiction de recrutement du Raja. Les deux clubs s'affrontent ce samedi en quart de finale retour de la Ligue des Champions. À l'aller au Maroc, le Raja s'est imposé 2-0, dont un but de Ben Malango contre ses anciens coéquipiers.
Athlétisme à présent, le Maroc et le Nigeria sous surveillance de l'antidopage.
Oui, le Maroc et le Nigeria ont été ajoutés à la liste des pays présentant le plus haut risque de dopage par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Les pays sont classés par l'AUA en 3 catégories. A, le plus haut risque de dopage. B et C, le risque le plus faible. Le Maroc et le Nigeria ont rejoint la catégorie A. Le Bahreïn, le Bélarus, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ukraine et la Russie sont à part car suspendus provisoirement depuis novembre 2015. Les pays classés en catégorie A doivent s'assurer que chacun de leurs athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ait subi au moins 3 tests antidopage inopinés hors compétition dans les 10 mois qui précèdent les Jeux.
En NBA, pour terminer, Luka Doncic a remporté le duel des étoiles montantes contre Zion Williamson.
Et oui, à 21 ans, Luka Doncic a établi un nouveau record dans l'histoire de Dallas. Contre la Nouvelle-Orléans, le Slovène a compilé 30 points, 17 rebonds et 10 passes décisives pour offrir la victoire 127 à 123 au Maverick. Il s'agit du 22e triple-double de sa carrière, record de la franchise texane. Zion Williamson, 19 ans, a pour sa part enchaîné pour la première fois de sa carrière. 2 matchs en 2 jours pour 2 défaites. Oklahoma City et Utah ont remporté 2 précieuses victoires à l'extérieur respectivement contre Détroit, 114 à 107 et les Knicks de New York, 112 à 104. À l'Est, Giannis Antetokounmpo a tenu son rang et permis aux Bucks de Milwaukee de l'emporter 119 à 100 devant Indiana.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacoub.
Le Monde aujourd'hui, VOA.
De nouveau avec vous, Eric Manirakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Sénégal a lancé un vaste plan pour tenter de contenir le coronavirus. Le pays a déjà enregistré 4 cas, dont 3 Français et une Britannique. Depuis Dakar, un reportage d'Alison Lekogo Fernandez.
Au centre des opérations d'urgence sanitaire, dans la capitale sénégalaise, Mamadou Fall fait le point sur le matériel disponible. C'est ici que viennent s'approvisionner de nombreuses équipes d'intervention mobile susceptibles d'être en contact avec des malades atteints du coronavirus. Le centre les dote de différents équipements. Mamadou Fall, logisticien au centre des opérations d'urgence sanitaire.
Dans le kit, il y a des alcoogels, il y a aussi des thermomètres. Mais nous changeons ces thermomètres aujourd'hui vu la gravité de la contamination et puis la rapidité de la contamination. Nous utilisons les thermoflashs pour ne pas avoir un contact direct avec le malade.
Le centre des opérations d'urgence sanitaire a été créé en 2014, après l'éclatement de l'épidémie d'Ebola. Il est aujourd'hui chargé de coordonner la riposte au coronavirus. À cet effet, le gouvernement sénégalais a annoncé cette semaine le lancement d'un plan d'une valeur d'$1,7 million qui inclut formation du personnel de santé, mise à niveau des centres de traitement ou encore communication auprès du grand public via les médias ou encore les réseaux sociaux. Docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire.
La contagiosité, elle est extrêmement importante et nous nous mettons dans les dispositions d'avoir plusieurs cas. Et ça, je pense qu'au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des autres secteurs avec qui nous travaillons, les stratégies sont en train d'être développées et voilà, nous avons vraiment tous les scénarios en place jusqu'au scénario le pire scénario.
Les malades infectés par le coronavirus au Sénégal ont été placés en quarantaine à l'hôpital Fane. 24 heures après l'annonce du premier cas, les gels antiseptiques et masques étaient déjà en pénurie dans de nombreuses pharmacies de Dakar.
Les Sénégalais, ils n'avaient pas peur, mais maintenant, tout le monde a peur. Hein. C'est partout dans le monde, tout le monde a peur.
Nous devons acheter aussi des antiseptiques. Et présentement, il y a une carence aussi, même dans les pharmacies. Donc, nous sommes obligés de prendre l'eau de Javel, donc les règles élémentaires de base.
Des numéros verts ont été activés cette semaine pour répondre aux questions de la population sur le coronavirus et signaler tout cas suspect d'infection. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Remise hier au département d'État américain du prix international Femmes de Courage 2020. Parmi les lauréates, Claire Ouedraogo du Burkina Faso, son association Son Manadré pour le développement œuvre pour l'élimination des mutilations génitales féminines et l'autonomisation des femmes dans les régions rurales du centre nord. Félix Yepassi Zembrou a recueilli sa réaction.
Dans l'association féminine Son Manadré pour le développement, nous menons beaucoup d'activités avec notre communauté afin d'atteindre un changement. Commençant par la lutte contre la pratique de l'excision, nous avons avec les communautés entre-temps commencé à promouvoir la pratique de la planification familiale pour libérer un peu les femmes, pour les permettre d'avoir une bonne santé. Et avec le temps, nous nous sommes rendus compte que la pauvreté était vraiment féminine dans notre communauté. Nous avons essayé d'accompagner les femmes avec les microcrédits, les microprojets. Et étant donné que chez nous, au Burkina, les femmes sont 100% agricultrices et que les femmes n'ont pas accès à la terre chez nous, au Burkina, nous avons décidé de faire des plaidoyers au niveau des chefs coutumiers afin de pouvoir avoir des terres cultivables pour les femmes et les accompagner dans la récupération et puis les accompagner dans l'équipement rural agricole afin de les permettre d'avoir des sources de revenus pour pouvoir améliorer leurs conditions.
Oui, vous avez parlé de mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines au Burkina Faso demeurent encore un combat très difficile pour l'association que vous dirigez.
Exactement. Et les mutilations génitales féminines, ce sont des pratiques traditionnelles néfastes. Et étant donné que ce sont des pratiques coutumières, La lutte est vraiment énorme. La lutte pour le changement de comportement ne se mène pas une seule journée. Et ce qui fait que la lutte est effectivement longue. Mais avec les initiatives et l'engagement de notre État, en tout cas, nous arrivons à faire changer les choses.
Et qu'en est-il de notre combat, l'autonomisation des femmes par l'éducation, par la formation professionnelle, les microcrédits dont vous avez parlé? Quels sont les résultats en ce moment?
Alors, dans notre milieu, cette contribution a aidé beaucoup de femmes à pouvoir avoir des petits projets et à pouvoir se prendre en charge, se soigner et même envoyer leurs enfants pour la scolarisation. Et en tout cas, le changement est assez positif à ce niveau.
Comment vivent les femmes, madame, les pays à risque, les pays où il y a le terrorisme, justement? Comment vivent-elles, ces femmes?
Alors, aujourd'hui, parlant de terrorisme, je dirais que le Burkina Faso traverse en tout cas une situation très difficile aujourd'hui, parce que moi-même, je viens du centre-nord du Burkina Faso, où le taux de déplacés avoisine les 55%. 52-55%, c'est la région la plus touchée par le terrorisme au Burkina. Et les femmes sont les plus concernées. Et le déplacement concerne essentiellement les femmes et les enfants qui se retrouvent dans la rue et font face à la violence, à la misère. C'est effectivement une préoccupation actuellement chez nous.
Claire Ouedraogo, présidente de l'association féminine Sang Manedré au Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La Cour pénale internationale CPI a autorisé aujourd'hui en appel l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan. L'administration américaine de Donald Trump s'est farouchement opposée à cette enquête. Le conflit afghan a fait plus de 100 000 victimes civiles, tuées et blessées sur la seule période 2009-2019, selon les Nations Unies. Pour en parler, John Lindon a joint Philippe Bolopio, directeur adjoint du plaidoyer au sein de Human Rights Watch.
C'est une décision historique et importante pour les victimes de crimes commis en Afghanistan. Ce qui justifie cette enquête, c'est tout simplement le fait que selon la procureure de la Cour pénale internationale, des crimes d'une extrême gravité ont été commis depuis le début de la guerre en Afghanistan et malheureusement, l'impunité continue à régner pour ces crimes et c'est justement le devoir de la Cour pénale internationale d'enquêter quand personne d'autre ne le fait.
Cette enquête vise nommément les soldats américains et la CIA. Les États-Unis ne sont pas membres de la CPI et l'administration Trump est jusqu'ici restée farouchement opposée à toute action judiciaire de la CPI. Quelles sont les chances d'aboutissement d'une telle enquête?
L'avenir le dira. D'abord, l'enquête ne vise pas uniquement des personnels américains. Elle vise également les forces de sécurité afghanes et les talibans, bien sûr. Donc la Cour pénale internationale ne fait pas preuve de sélectivité dans son choix des enquêtes. Elle mène des enquêtes sur ce qui s'est passé et décide à partir de là qui sont les personnes qui sont susceptibles d'être traduites en justice. Il n'est évidemment pas surprenant que l'administration Trump soit farouchement opposée à la Cour pénale internationale. Par le passé déjà, l'administration Trump a menacé d'imposer des sanctions contre les membres de la Cour, notamment en révoquant le visa de la procureure de la Cour pénale internationale elle-même. Donc il est clair que les États-Unis, le gouvernement américain, craint que justice soit faite et donc tente d'intimider la Cour par tous les moyens. Et on ne peut qu'espérer que les pays qui sont membres de la Cour pénale internationale vont la soutenir et faire face à ces pressions et à ces menaces.
Alors, pour le cas des États-Unis ou des soldats américains, est-ce qu'il y a des noms qui sont prononcés?
Je pense qu'il est trop tôt pour parler de noms. Certains des crimes qui ont sans doute été commis sont connus. Il s'agit principalement d'actes de torture par des membres des forces de l'armée américaine, mais aussi de la CIA. à ces crimes de torture ont pu être commis soit en Afghanistan, soit ensuite dans un réseau de prisons secrètes à travers le monde. Mais à ce jour, nous ne connaissons pas encore les noms des responsables américains qui pourraient être impliqués.
Cette enquête est lancée quelques jours seulement, ou tout au moins cette enquête est autorisée quelques jours seulement après la signature par les États-Unis et l'Afghanistan d'un accord de paix. Comment expliquez-vous ce timing?
C'est à la Cour de l'expliquer. Je pense que la justice suit son cours et malheureusement on peut juger que ces processus sont parfois trop lents. Et quoi qu'il en soit, la décision de la Cour ne gêne en rien les efforts de paix qui sont menés en Afghanistan. Il ne peut y avoir de paix durable en Afghanistan ou nulle part ailleurs si les responsables de crimes graves ne sont pas punis, parce que malheureusement, si l'impunité règne, l'histoire a tendance à se répéter et les mêmes crimes ont tendance à être commis.
Philippe Bolopion, directeur adjoint du plaidoyer au sein de Human Rights Watch. Et on finit en beauté avec le 60e anniversaire du service français de la Voix de l'Amérique. Notre 60e anniversaire est marqué cette semaine par des témoignages. Une cérémonie commémorative est également prévue demain vendredi, ici au siège de la Voix de l'Amérique à Washington DC. Ce soir, vous suivez Idriss Afal, rédacteur en chef à VOA Afrique. Il est au micro d'Arzuma Compaoré.
Idriss Fall est avec nous pour le sujet américain du jour. Idriss.
Les autorités judiciaires américaines ont l'intention...
Je suis arrivé ici en décembre 1992, voilà. J'étais parmi les plus jeunes, Idriss Adja vous le dira. J'avais un carnet d'adresses très, très fourni.
Aujourd'hui, l'Afrique centrale, au micro Ferdinand Ferrella.
On avait lancé une émission qui s'appelait « Aujourd'hui, l'Afrique centrale », que j'ai animée avec Ferdinand Ferrella, qui était très écouté au Congo. Et par la suite, on avait commencé à faire un autre show qui s'appelle Aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. 2009, j'interviewe Abdoulaye Wade ici, au Willard, et que dans l'interview, Abdoulaye Wade me dit que lui, il est candidat pour un troisième mandat. Je sors de l'hôtel, j'appelle le grand Idriss Seydou Dia, qui était mon chef. Il me dit non, tu ne passes pas par le bureau, tu vas directement au studio 13, tu vas mettre ça sur les ondes. Cale ton truc. Et ils m'ont pris dans le journal et on a balancé ces trucs. Le lendemain, il y a 45 agences de presse dans le monde qui ont voulu avoir ce son-là où Abdoulaye Wade, depuis Washington, déclare qu'il est candidat à la présidence pour un troisième mandat. Et il sera battu par un certain Macky Sall.
Du blues ou jazz?
Notre invité... Entre mon arrivée aujourd'hui... c'est des époques différentes, c'est un public différent... C'est bien parfois que la radio puisse faire de l'entertainment, que les gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles puissent même avoir le sourire, et que je pense que c'est ça qui a changé maintenant et que je pense qu'il faut aller dans cette voie-là. C'est des défis quotidiens, en sens que si ce qu'on fait n'est pas bon, les gens, ils tournent le bouton. Je pense que les gens jusqu'à présent ont beaucoup de respect pour cette radio et il faut garder ce standard très, très élevé.
Passez une excellente fin de soirée sans blues. Bien sûr.
Idriss Fall, rédacteur en chef à VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition de 18h30 en temps universel. Merci de l'avoir suivi. À la console, c'est Georges Léonard Sagnon, JLS. Merci pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manilakiza à Washington. Bonne fin de journée. Bonne soirée, à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.